J'ai laissé Valleville, désespéré de ce que je voulais partir sans me faire connaître, mais les pleurs qu'il me vit répandre le calmèrent tout d'un coup. Je n'ai jamais rien vu de si doux, de si tendre, que ce qui se peignit alors sur sa physionomie. Et en effet, mes pleurs ne concluaient rien de fâcheux pour lui. Il n'annonçait ni haine ni indifférence, il ne pouvait signifier que de l'embarras. « Et quoi, mademoiselle, vous pleurez ?» me dit-il, en venant se jeter à mes genoux avec un amour où l'on démêlait déjà je ne sais quel transport d'espérance. « Vous pleurez ? Et quel est donc le motif de vos larmes ? Vous ai-je dit quelque chose qui vous chagrine ? Parlez, je vous en conjure. D'où vient que je vous vois dans cet état-là » ajouta-t-il en me prenant une main qu'il accablait de caresses et que je ne retirais pas, mais que dans ma consternation, je semblais lui abandonner avec décence et comme à un homme dont le bon cœur et non pas l'amour obtenait de moi cette nonchalance-là. « Répondez-moi » s'écriait-il. « Avez-vous d'autres sujets de tristesse ? Et pourriez-vous hésiter d'ouvrir votre cœur à qui vous a donné tout le sien, à qui vous jure qu'il sera toujours à vous, à qui vous aime plus que sa vie, à qui vous aime autant que vous méritez d'être aimé ? Est-ce qu'on peut voir vos larmes sans souhaiter de vous secourir ? Et vous est-il permis de m'en pénétrer sans vouloir rien faire de l'attendrissement où elle me jette ? Parlez, quel service faut-il vous rendre ? Je compte que vous en irez pas si tôt. Il faudrait donc envoyer chez Madame Dutour, lui dis-je naïvement alors, comme entraîné par moi-même par le torrent de sa tendresse et de la mienne. Et la voilà enfin déclarée, cette Madame Dutour si terrible, et sa boutique et son enseigne, car tout cela était compris dans son nom. Et la voilà déclarée sans que j'hésitasse, et je ne m'aperçus pas que j'en parlais. Chez Madame Dutour, une marchande de linge ? Je la connais, dit Belleville. C'est donc elle qui aura soin d'aller chez vous avertir où vous êtes. Mais de la part de qui lui dira-t-on qu'on vient ? À ma question, ma naïveté m'abandonna. Je me retrouvai glorieuse et confuse. Je retombai dans tout mon embarras. En effet, y avait-il rien de si piquant que ce qui m'arrivait ? Je viens de nommer Madame Dutour. Je crois par là avoir tout dit, et que Valleville est à peu près au fait. Point du tout, il se trouve qu'il faut recommencer, que je n'en suis pas quitte, et que je ne lui ai rien appris, et qu'au lieu de comprendre que je l'envoie chez elle que parce que j'y demeure, il entend seulement que mon dessein est de la charger d'aller dire à mes parents où je suis. C'est-à-dire qu'il la prend pour ma commissionnaire. C'est là toute la relation qu'il imagine entre elle et moi. Et d'où vient cela ? Ben, c'est que j'ai si peu l'air d'une Marianne, c'est que mes grâces et ma physionomie le préoccupent tant en ma faveur, c'est qu'il est si éloigné de penser que je puisse appartenir de près ou de loin à Madame Dufour, qu'apparemment il ne saura que je loge chez elle et que je suis sa fille de boutique, quand je lui aurais dit peut-être, répété dans les termes les plus simples, les plus naturels et les plus clairs. Oh, voyez combien il sera surpris, et moi, qui prévois sa surprise, je ne dois pas frémir plus que jamais de la lui donner. Je ne répondais donc rien, rien, mais il se mêlait à mon silence un air de confusion si marqué qu'à la fin Valleville entrevit ce que je n'avais pas le courage de lui dire. « Quoi, mademoiselle, est-ce que vous logez chez Madame Dutour ?»« Oui, monsieur, lui répondis-je d'un ton vraiment humilié. Je ne suis pourtant pas faite pour être chez elle, mais les plus grands malheurs du monde m'y réduisent. »« Voilà donc ce que je signifiais vos pleurs, me répondit-il en me serrant la main, avec un attendrissement qui avait quelque chose de si honnête pour moi et de si respectueux, que c'était comme une réparation des injustices que me faisait le sort. Voyez si mes pleurs m'avaient bien servi. L'article sur lequel nous en étions allait sans doute donner matière à une longue conversation entre nous, quand on ouvrit avec grand bruit la porte de la salle, et que nous vîmes entrer une dame menée, devinez par qui, par M. de Climal, qui, pour premier objet, aperçut Marianne en face, à demi couchée sur un lit de repos, les yeux mouillés de larmes et tête à tête avec un jeune homme, dont la posture tendre et soumise menait à croire que son entretien roulait sur l'amour et qu'il me disait « je vous adore ». Car vous savez qu'il était à mes genoux, et qui plus est, c'est que dans ce moment, il avait la tête baissée sur une de mes mains, ce qui concluait aussi qu'il la baisait. N'était-ce pas là un tableau bien amusant pour Monsieur de Climal? Je voudrais pouvoir vous exprimer ce qu'il devint, vous dire qu'il rougit, qu'il perdit toute contenance. Ce n'est vous rendre que les gros traits de l'état où je le vis. Figurez-vous un homme dont les yeux regardaient tout, sans rien voir, dont les bras se remuaient toujours, sans avoir de geste, qui ne savait quelle attitude donner à son corps, qu'il avait de trop, ni que faire de son visage, qui ne savait sous quel air présenter, pour empêcher qu'on y vît son désordre, qui allait s'y peindre. Monsieur de Climal était amoureux de moi, comprenez donc combien il fut jaloux. Amoureux et jaloux, voilà déjà de quoi être bien agité. Et puis Monsieur de Climal était un faux dévot, qui ne pouvait avec honneur laisser transpirer ni jalousie ni amour. Il transpirait pourtant, malgré qu'il en eût. Il le sentait bien, il en était honteux. Il avait peur qu'on aperçût sa honte. Et tout cela ensemble lui donnait je ne sais quelle incertitude de mouvement, sotte, ridicule, qu'on voit mieux qu'on ne l'explique. Et ce n'est pas là tout. Son trouble avait encore un grand motif que j'ignorais. Le voici, c'est que Valville, en se levant, s'écria à demi-bas. Eh, c'est mon oncle! Nouvelle augmentation de singularité dans ce coup de hasard. Je n'avais fait que rougir en le voyant, cet oncle. Mais la parenté que j'apprenais me déconcerta encore davantage, et la manière dont je le regardais, s'il y fit attention, l'accusait bien nettement d'avoir pris plaisir au discours de Valville. J'avais tout à fait l'air d'être sa complice, cela n'était pas douteux à ma contenance. De sorte que nous étions trois figures très interdites. À l'égard de la dame qui menait M. de Climal, elle ne me parut pas s'apercevoir de notre embarras. Elle ne remarqua, je pense, que mes grâces, ma jeunesse et la tendre posture de Valville. Ce fut elle qui ouvrit la conversation. « Je ne vous plains point, monsieur, vous êtes en bonne compagnie, un peu dangereuse à la vérité. Je n'y crois pas votre cœur fort en sûreté, » dit-elle à Valville en nous saluant. À quoi, d'abord, il ne répondit que par un sourire, faute de savoir que dire. Monsieur de Climal souriait aussi, mais de mauvaise grâce, et en homme indéterminé sur le parti qu'il allait apprendre, inquiet de celui que je prendrais, car fallait-il qu'il me connût ou non, et moi-même allais-je en agir avec lui, comme avec un homme que je connaissais. D'un autre côté, ne sachant aussi quel accueil je devais lui faire, j'observais le sien pour m'y conformer, et comme son air souriant ne réglait rien là-dessus, la manière dont je saluais ne fut pas plus décisive, et se sortit de l'équivoque où il me laissait. En un mot, j'en fis trop et pas assez. Dans la moitié de mon salut, il semblait que je le connaissais, et dans l'autre moitié, je ne le connaissais plus. C'était oui et c'était non, et tous les deux manquaient. Valville remarqua cette façon d'agir absurde, mais il me l'a dit depuis, il en fut frappé. Il faut savoir que, depuis quelque temps, il soupçonnait son oncle de n'être pas tout ce qu'il voulait paraître. Il avait appris, par de certains faits, à se défier de sa religion et de ses mœurs. Il voyait que j'étais aimable, que je demeurais chez Madame Dutour, que j'avais beaucoup pleuré avant que de l'avouer. Que pouvais-je, après cela, signifier cet accueil à double sens que je faisais à Monsieur de Climal, qui n'avait pas à son tour un maintien moins composé ni plus clair? Il y avait la matière à de fâcheuses conjectures. J'oublie de vous dire que je feignis de vouloir me lever pour saluer plus décemment. « Non, 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 mademoiselle, non, demeurez, me dit Malville, ne vous levez point. Madame vous en empêchera elle-même quand elle saura que vous êtes blessée au pied. Pour monsieur, ajouta-t-il en adressant la parole à son oncle, je crois qu'il vous en dispense, d'autant plus qu'il me paraît que vous vous connaissez. Je ne pense pas avoir cet honneur-là, répondit sur le champ monsieur de Climal, avec une rougeur qui vengeait la vérité de son effronterie. « Est-ce que mademoiselle m'aurait vu quelque part ? » ajouta-t-il en me regardant d'un œil qui me demandait le secret. « Je ne sais, repartis-je d'un ton moins hardi que mes paroles, mais il me semblait que la physionomie de monsieur ne m'était pas inconnue. « Cela se peut, dit-il, mais qu'est-il donc arrivé à mademoiselle ? Est-ce qu'elle est tombée ?» Et cette question-là, il la faisait à son neveu, qui ne lui répondait rien. Il n'avait pas seulement entendu, son inquiétude l'occupait bien d'autre chose. « Oui, monsieur, dis-je alors pour lui, toute confuse, que j'étais d'aider à soutenir un mensonge, dans lequel je voyais bien que Malville m'accusait de moitié avec son oncle. « Oui, monsieur, c'est une chute que j'ai faite près d'ici, presque au sortir de la messe, et on m'a porté dans cette salle. » Parce que je ne pouvais marcher. Mais, dit la dame, il faudrait du secours. Si c'était une entorse, cela est considérable. Êtes-vous seule, mademoiselle ? N'avez-vous personne avec vous ? Pas un laquais, pas une femme ? Non, madame, répondis-je, fâché de l'honneur qu'elle me faisait, et que je reprochais à ma figure qui en était cause. Non, je ne demeure pas loin d'ici. Eh bien, dit-elle, « nous allons dîner, monsieur Climal et moi, dans ce quartier, et nous vous ramènerons. »« Encore, dis-je en moi-même, quelle persécution !»« Mais tout le monde a donc la fureur de me ramener. » Car sur cet article-là, je n'avais pas l'esprit bien fait. Ce qui me frappa d'abord, ce fut, comme avec Valville, l'affront d'être reconduite à cette malheureuse boutique. Cette dame qui parlait de femme, de laquais, dont elle s'imaginait que je devais être suivi, après cette opinion fastueuse de mon état, qu'aurait-elle trouvé ? Marianne ! Ah, le beau dénouement ! Et quelle Marianne encore ! Une petite friponne, en liaison avec M. de Climal, c'est-à-dire avec un franc hypocrite. Car quel autre nom eût pu espérer cet homme de bien ? Je vous le demande. Que serait devenue la bonne odeur de sa vie, lui qui avait nié de me connaître, et moi-même qui m'étais prêté à son imposture? N'aurais-je pas été une jolie mignonne avec mes grâces, si Madame Dufour et Toinon s'étaient trouvées sur le pas de leur porte, comme elles en avaient volontiers la coutume, et nous eussent dit « Ah, c'est donc vous, monsieur, et d'où venez-vous, Marianne ?» comme assurément elle n'y aurait pas manqué. « Oh, voilà ce qui devait me faire trembler, et non pas ma boutique. C'était là le véritable opprobre qui méritait mon attention. Je ne l'aperçus pourtant que le dernier, et cela est dans l'ordre. On va d'abord au plus pressé, et le plus pressé pour nous, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire notre orgueil. Car quand notre orgueil est nous, ce n'est qu'au lieu que nous, eux et notre vertu, c'est deux, n'est-ce pas, madame ? Cette vertu, il faut qu'on nous la donne. C'est en partie une affaire d'acquisition. Cet orgueil, on ne nous le donne pas. Nous l'appelons en naissant, portons en naissant. Nous l'avons tant qu'on ne saurait nous l'ôter. Et comme il est le premier en date, il est dans l'occasion le premier servi. C'est la nature qui a le pas sur l'éducation. Et comme il y a longtemps que je ne fais pas de pause, vous aurez la bonté de vouloir bien que j'observe encore une chose que vous n'avez peut-être pas assez remarquée, c'est que dans la vie, nous sommes plus jaloux de la considération des autres que de leur estime, et par conséquent de notre innocence, parce que c'est précisément nous que leur considération distingue, et que ce n'est qu'à nos mœurs que leur estime s'adresse. Oh ! Nous nous aimons encore plus que nos mœurs. Estimez mes qualités, et tant qu'il vous plaira, vous direz tous les hommes. Vous me ferez grand plaisir, pourvu que vous m'honoriez, moi qui les ai, et qui ne suis pas celle. Car si vous me laissez là, si vous négligez ma personne, je ne suis pas content. Vous prenez à gauche, et comme si vous me donniez le superflu et que vous me refusassiez le nécessaire. Faites-moi vivre d'abord et me divertissez après, sinon j'y pourvoirai. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pour parvenir à être honoré, je saurais bien cesser d'être honorable, et en effet, c'est assez là le chemin des honneurs, et qui les mérite n'y arrive guère. J'ai fini. Ma réflexion n'est pas mal placée, je l'ai faite seulement un peu plus long que je ne croyais. En revanche, j'en ferai quelque autre ailleurs, qui sera plus courte, trop courte. Je ne sais pas comment nous nous serions échappés, monsieur de Climal et moi, du péril où nous jetait cette dame en s'offrant de me reconduire. Aurait-il pu s'exenter de prêter son carrosse? Aurais-je pu refuser de le reprendre? Tout cela était difficile. Il pâlissait et je ne répondais rien. Ses yeux me disaient « Tirez-moi d'affaire !» Les miens lui disaient « Mais tirez-moi vous-même » Et notre silence commençait à devenir sensible. Quand il entra, un laquais qui dit à Valville que le carrosse qu'il avait envoyé chercher pour moi était à la porte. Cela nous sauva, et mon Tartuffe en fut si rassuré qu'il osa même abuser de la sécurité où il se trouvait pour lors, et porter le jordasse jusqu'à dire « Mais il y a un carrosse, voyez ce carrosse, il est inutile puisque voilà le mien !» Et cela du ton d'un homme qui avait compté me mener et qui n'avait négligé de répondre à la proposition que parce qu'elle faisait pas la moindre difficulté. Je songe pourtant que je devrais rayer l'épithète de Tartuffe que je viens de lui donner, car je lui ai obligation à ce Tartuffe-là. Sa mémoire me doit être chère. Il devint un homme de bien pour moi. Ceci soit dit pour l'acquis de ma reconnaissance et en réparation du tort que la vérité historique pourra lui faire encore. Cette vérité a ses droits, qu'il faut bien que M. de Climal essuie. Je compris bien qu'il s'en fiait à moi pour l'impunité de sa hardiesse et qu'il ne craignait pas que j'eusse la malice ou la simplicité de l'en faire repentir. « Non, monsieur, lui répondis-je, il n'est pas nécessaire que je vous dérange, puisque j'ai une voiture pour m'en retourner. Et si monsieur, dis-je tout de suite en parlant à Valville, peut bien appeler quelqu'un pour m'aider à me lever d'ici, je partirai tout à l'heure. Oh, je pense que ces messieurs vous aideront bien eux-mêmes, dit galamment la dame. Et en voici un, c'était Valville qu'elle montrait, qui ne sera pas fâché d'avoir cette peine-là, n'est-il pas vrai? Discours qu'il venait sans doute de ce qu'elle avait vu à ses genoux. « Au reste, ajouta-t-elle, comme nous nous en allons aussi, il faut vous dire ce qui nous arriverait et ce qui nous amenait. Avez-vous des nouvelles de Madame de Valville ?» C'était la mère du jeune homme. « Arrive-t-elle de sa campagne? La reverrons-nous bientôt ?»« Oh, je l'attends cette semaine, » dit Valville, d'un air distrait et nonchalant, qui prouvait mal cet empressement que la dame lui avait supposé pour moi, et qui n'aurait peut-être pas piqué moi-même si je n'avais pas eu aussi mes petites affaires dans l'esprit, mais j'étais trop dans mon tort pour y trouver à redire. Il y avait d'ailleurs dans sa renonchalance je ne sais quel fond de tristesse qui me rendait honteuse, parce que j'en apercevais le motif. Je sentais que c'était un cœur consterné de ne savoir plus si je méritais sa tendresse et qui avait peur d'être obligé d'y renoncer. Y avait-il rien de plus obligeant pour moi que cette peur-là, madame? Rien de plus flatteur, de plus aimable, rien de plus digne de jeter mon cœur dans un humble et tendre embarras devant le sien? car c'était là précisément tout ce que j'éprouvais. Un mélange de plaisir et de confusion, voilà mon état. Or, ce sont ces choses dont on peut dire que la moitié de ce qu'elles sont. Malgré cet air de froideur dont je vous ai parlé, Valville, après avoir satisfait de la question de la dame, vint à moi pour m'aider à me lever et me prit par-dessous les bras. Mais comme il vit que M. de Climal s'avançait aussi, « Non, monsieur, dit-il, on ne vous en mêlez pas, vous ne seriez pas assez fort pour soutenir mademoiselle, et je doute qu'elle puisse poser le pied à terre. Il vaut mieux appeler quelqu'un. » M. de Climal se retira. On a si peu d'assurance quand on n'a pas la conscience bien nette. Et là-dessus, il sonne. Deux de ces gens arrivent. « Approchez, leur dit-il, et tâchez de porter mademoiselle jusqu'à son carrosse. Je crois que je n'avais pas besoin de cette cérémonie-là et qu'avec le secours des deux bras, je me serais aisément soutenu, mais j'étais si étourdi, si décontenancé, que je me laissais mener comme on voulait et comme je ne voulais pas. Monsieur de Climal et la dame, qui s'en retournaient ensemble, me suivirent, et Valville marchait le dernier en nous suivant aussi. Quand nous traversâmes la cour, je le vis du coin de l'œil et qui parlait à l'oreille d'un laquais. La vue de ce domestique aposté réveilla toute ma sensibilité sur mon aventure et me fit encore rougir. C'était un témoin de plus de la petitesse de mon état, et ce garçon, quoiqu'il n'eût fait que me voir chez Valville, ne se serait pas, j'en suis sûr, imaginé que je dusse entrer chez moi par une boutique. C'est une réflexion que je fis. N'était-ce pas assez pour être fâché de le trouver là? Oh, il est vrai que ce n'était qu'un laquais, mais quand on est glorieuse, on n'aime pas à perdre dans l'esprit de personne. Il n'y a point de petit mal pour l'orgueil, point de minutie, rien ne lui est indifférent. Et enfin, ce valet me mortifia d'ailleurs. Il n'était là que par l'ordre de Valville, il n'y avait pas à en douter. C'était bien la peine que mon maître fît tant de façons avec cette petite fille-là. Pouvait-il dire même lui-même d'après ce qu'il voyait? Car mes gens sont plus moqueurs que d'autres. C'est le régal de leur bassesse que de mépriser ce qu'ils ont respecté par méprise. Et je craignais que cet homme-ci, dans mon rapport à Valville, ne glissât sur mon compte quelque tournure insultante, qui ne se régala un peu aux dépens de mon domicile, et n'acheva de rebuter la délicatesse de son maître. Je n'avais déjà que trop baissé le prix à ses yeux. Il n'osait déjà plus faire tant de cas de l'honneur qu'il y aurait à me plaire. Et adieu le plaisir d'avoir de l'amour, quand la vanité d'en inspirer nous quitte. Et Valville était presque dans ce cas-là. Voyez le sort que m'eût fait alors le moindre trait railleur jeté sur moi, car on ne saurait croire la force de certaines bagatelles sur nous quand elles sont placées, et la vérité est que les dégoûts de Valville, provenus de là, m'auraient plus fâché que la certitude de ne le plus voir. Et à peine je fus assise que je tirai de l'argent pour payer le cocher. Même Madame Dutour, en femme d'expérience, crut devoir me conduire là-dessus et me trouva trop jeune pour m'abandonner ce petit détail. « Laissez-moi faire, me dit-elle. Je vais le payer. Vous a-t-il pris ?»« Auprès de la paroisse, lui dis-je. »« Eh bien, c'est tout près d'ici, répliqua-t-elle en comptant quelques monnaies. Tenez, mon enfant, voilà ce qu'il vous faut. »« Ce qu'il me faut, cela, dit le cocher, qui lui rendit sa monnaie avec un dédain brutal. » « Oh, que nenni ! Cela ne se mesure pas à l'aune. »« Mais que veut-il dire avec son aune, cet homme ?» répliqua gravement Madame Dutour. « Vous devez être content, on sait peut-être bien ce que c'est qu'un carrosse, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en paye. »« Et quoi ce serait de demain, dit le cocher, qu'est-ce que cela avance ? Eh, donnez-moi mon affaire !» Et ne crions pas trop, voyez de quoi elle se mêle. Est-ce vous que j'ai mené? Est-ce qu'on vous demande quelque chose? Quel diable de femme avec ses 12 sols! Elle marchande cela comme une botte d'herbe. Madame Dufour était fière, parée, et qui plus est assez jolie, ce qui lui donnait encore une autre espèce de gloire. Les femmes d'un certain âge s'imaginent en avoir plus de dignité quand elles ont un joli visage. Elles regardent cet avantage-là comme un rang. La vanité cède de tout et remplace ce qui manque avec ce qu'elle peut. Même Madame Dutour, donc, se sentit offensée de l'apostrophe ignoble du cocher. Je vous raconte cela pour vous divertir. La botte d'herbe sonna mal à ses oreilles. Comment ce jargon-là pouvait-il venir à la bouche de quelqu'un qui la voyait? Y avait-il rien dans son air qui fit penser à pareille chose? En vérité, mon ami, il faut avouer que vous êtes bien impertinent. Il me convient bien d'écouter vos sottises, dit-elle. Alors, retirez-vous. Voilà votre argent. Prenez ou laissez. Qu'est-ce que cela signifie? Si j'appelle un voisin, vous apprendra à parler aux bourgeois plus honnêtement que vous le faites. Mais qu'est-ce que vient me conter cette chiffonnière? Répliqua l'autre, en vrai fiacre. Garde, prenez garde à elle. Elle a son fichu les dimanches. Ne semble-t-il pas qu'il faille tant de cérémonies pour parler à madame? On parle bien à Perrette et pas le sangbleu. Payez-moi. Quand vous serez encore quatre fois plus bourgeoise que vous n'êtes, qu'est-ce que cela me fait? Faut-il pas que mes chevaux vivent? Avec quoi dîneriez-vous, vous qui parlez, si on ne vous payait pas votre toile? Auriez-vous la face si large? Fille, que cela est vilain d'être crasseuse. Le mauvais exemple débauché. Et Madame Dutour, qui s'était maintenue jusque-là dans les bornes d'une assez digne fierté, ne put résister à cette dernière brutalité du cocher. Elle laissa là le rôle de femme respectable qu'elle jouait et qui ne lui rapportait rien, se mit à sa commodité, en revint à la manière de se quereller qui était à son usage, c'est-à-dire au discours d'une commère de comptoir subalterne, et elle ne s'y épargna pas. Quand l'amour-propre, chez les personnes comme elle, n'est qu'à demi fâché, il peut encore avoir soin de sa gloire, de posséder, de ne faire que l'important, et garder quelque décence. Mais dès qu'il est poussé à bout, il ne s'abuse plus à ces fadeurs-là. Il n'est pas assez glorieux pour prendre garde à lui. Il n'y a plus que le plaisir d'être bien grossier et de se déshonorer tout à son aise qui le satisfasse. Et de ce plaisir-là, Madame Dutour s'en donna sans discrétion. « Attends, ivrogne, avec ton fichu des dimanches, tu vas voir la Perrette qu'il te faut. Je vais te la montrer. »« Moi !» s'écria-t-elle en courant se saisir de son aune qui était à côté du comptoir. Et quand elle fut armée, « Allons, sors d'ici !» s'écria-t-elle, « ou je te mesure avec cela, ni plus ni moins qu'une espèce de toile, puisque toile il y a. » « Jean, ne me frappez pas, lui dit le cocher, qui lui retenait le bras. « Soyez pas si osé. Je me donne au diable, elle m'a dit non point. « Voyez-vous, je suis un gaillard qui aime pas les coups, ou la peste m'étouffe. Allez, je vous demande que bon Dieu, entendez-vous? Il y a un point de mal à ça. » Le bruit qu'il faisait attirait du monde. On s'arrêtait devant la boutique. « Mais me laisseras-tu ?» lui disait Madame Dutour, qui disputait toujours son aune contre le cocher. « Mais levez-vous donc, Marianne, appelez Monsieur Ricard. »« Monsieur Ricard !» criait-elle tout de suite elle-même. C'était notre hôte qui logeait au second et qui n'y était pas. « Elle s'en douta, messieurs, » dit-elle en apostrophant la foule qui s'était arrêtée devant la porte. « Je vous prends tous à témoin, vous voyez ce qu'il y en est. Il m'a battu. » Cela n'était pas vrai. « Je suis maltraité, une femme d'honneur comme moi. Et vite, allez chercher le commissaire, il me connaît bien. C'est moi qui le fournis, on n'a qu'à lui dire que c'est chez Madame Dutour. Courez-y, Madame Catos, courez-y, mamie » criait-elle à une servante du voisinage. Le tout avec une cornette qui les secousses que le cocher donnait à ses bras avait rangées de travers. Elle avait beau crier, personne ne bougeait, ni messieurs, ni Kathos. Le peuple à Paris n'est pas comme ailleurs, en d'autres endroits. Vous le verrez, quelquefois commencer par être méchant, et puis finir par être humain. Ce querelle-t-on, il excite, il anime. Peut-on se battre, il sépare. En d'autres pays, il laisse faire place, parce qu'il continue d'être méchant. Celui de Paris n'est pas de même, il est moins canaille, et plus peuple que les autres peuples. Quand il est à cour en pareil cas, ce n'est pas pour s'amuser de ce qui se passe, ni comme qui dirait pour s'en réjouir, non. Il n'a pas cette maligne espièglerie-là. Il ne va pas rire, car il pleurera peut-être, et ce sera tant mieux pour lui. Il va voir, il va ouvrir des yeux stupidement avides, il va jouir bien sérieusement de ce qu'il verra. En un mot, alors, il n'est ni polisson ni méchant, et c'est en quoi j'ai dit qu'il était moins canaille. Il est seulement curieux, d'une curiosité sotte et brutale, qui ne veut ni bien ni mal à personne, qui n'entend point d'autre finesse que de venir se repaître de ce qui arrivera. Ce sont des émotions d'âme que ce peuple demande. Les plus fortes sont les meilleures. Ils cherchent à vous plaindre si on vous outrage, à s'attendrir pour vous si on vous blesse, à frémir pour votre vie si on la menace. Voilà ces délices. Et si votre ennemi n'avait pas assez de place pour vous battre, il lui en ferait lui-même, sans en être plus mal intentionné, et lui dirait volontiers « Mais tenez, faites à votre aise et ne vous retranchez rien du plaisir que nous avons à frémir pour ce malheureux. » Ce n'est pourtant pas des choses cruelles qu'il aime. Il en a peur, au contraire, mais il aime l'effroi qu'il lui donne. Cela rebute son âme, qui ne sait jamais rien, qui n'a jamais rien vu, et qui est toujours toute neuve. Tel est le peuple de Paris, à ce que j'ai remarqué dans l'occasion. Vous ne vous seriez peut-être pas trop soucié de le contraire, le connaître, mais une définition de plus ou de moins, quand elle vient à propos, ne gâte rien dans une histoire. Ben si, laissons celle-là, puisqu'elle y est. Vous jugez bien, suivant le portrait que j'ai fait de ce peuple, que Madame Dutour n'avait point de secours à en espérer. Le moyen qu'aucun des assistants eût voulu renoncer à voir le progrès d'une querelle qui promettait tard. À tout moment, on touchait à la catastrophe. Madame Dutour n'avait qu'à pouvoir parvenir à frapper le cocher de l'aune qu'elle tenait. Voyez ce qu'il en serait arrivé avec un fiacre. De mon côté, j'étais désolé. Je ne cessais de crier à Madame Dutour « Arrêtez-vous !» Le cocher s'enrouait à prouver qu'on ne lui donnait pas son compte, qu'on voulait avoir sa course pour rien. Témoin les 12 sols qui n'allaient jamais sans avoir leur épithète. Et des épithètes d'un cocher, on en soupçonne l'invincible, l'incivile élégance. Le seul intérêt des bonnes mœurs devait engager Madame Dutour à composer avec ce misérable. Il n'était pas honnête à elle de soutenir l'énergie de ses expressions, mais elle en dévorait le scandale en faveur de la rage qu'elle avait d'y répondre. Elle était trop fâchée pour avoir les oreilles délicates. « Oui, malotru, oui, 12 sols, t'en auras pas davantage, » disait-elle. « Et moi, je les prendrai pas, 12 diablesses, » répondait le cocher. « Encore dans les veux-tu pas, » continuait-elle. « N'es-tu pas honteux, fripon ? Quoi, pour venir d'auprès de la paroisse ici ? Mais quand ce serait pour un carrosse d'ambassadeur, tiens, jamais de la vie, un dernier avec elle. Tu l'aurais quasi, j'aimerais mieux te voir mort. Il n'y aurait pas grand-père, souviens-toi seulement que c'est aujourd'hui la Sainte-Mathieu. Bonjour, bonne œuvre, ne l'oublie pas. Et laisse venir demain, tu verras comme il sera fait. C'est moi qui te le dis, que je ne suis pas une chiffonnière, mais bel et bien Madame Dutour, oui, madame pour toi, madame pour les autres, et madame tant que je serai au monde, entends-tu ? Tout ceci ne se disait pas sans tâcher d'arracher le bâton des mains du cocher, qui le tenait et qui, à la grimace et au geste que je vais lui faire, me parut prêter à traiter Madame Dutour comme un homme. Je crois que c'était fait de la pauvre femme. Un gros poids de mauvaise volonté, levé sur elle, allait lui apprendre à badiner avec la modération d'un fiacre. Si je ne m'étais pas hâté de tirer environ 20 sols et de les lui donner. Il les prit sur le champ, secoua l'eau entre les mains de Madame Dutour assez violemment pour l'en arracher, la jeta dans son arrière-boutique, enfonça son chapeau en me disant grand merci, mignonne, sortit de là et traversa la foule qui s'ouvrit alors tant pour le laisser sortir que pour livrer passage à Madame Dutour, qui voulait courir après lui, que j'en empêchais, et qui me disait que, jour de Dieu, je n'étais qu'une petite sotte. Vous voyez bien ces 20 sols-là, Marianne. Je ne vous les pardonnerai jamais, ni à la vie ni à la mort. Ne m'arrêtez pas quand je vous battrai. Vous êtes encore bien plaisante avec vos 20 sols, pendant que c'est votre argent que j'épargne. Et mes 12 sols, s'il vous plaît, qu'est-ce qui me les rendra ? Car l'intérêt chez Madame Dutour ne s'étourdissait jamais de rien. Mais apporte-t-il aussi, mademoiselle ? Il fallait donc lui donner toute la boutique. « Eh, madame, lui dis-je, votre monnaie est à terre et je vous la rendrai si on ne la trouve pas. » Ce que je disais, en fermant la porte d'une main, pendant que je tenais Madame Dutour de l'autre. « Le beau carillon, dit-elle, quand elle ouvrit la, fit la porte fermée. Eh bien, vous voilà pas mal. Ah, ça, mais voyons donc cette monnaie qui est à terre, ajouta-t-elle en la ramassant avec autant de sang-froid que s'il ne s'était jamais rien passé. Le coquin est bien heureux que toi donc n'aies pas été ici. Elle vous aurait bien empêché de jeter l'argent par les fenêtres. Mais il faut justement que cette bégueule-là ait été dîner chez sa mère. Malpeste, elle est un peu meilleure ménagère. Aussi n'a-t-elle que ce qu'elle gagne et les autres ce qu'on leur donne. Au lieu que vous, Dieu merci, vous êtes si riche, vous avez un si bon trésorier, pourvu qu'il dure. Eh, madame, lui dis-je avec quelque impatience, ne plaisantons point là-dessus, je vous prie. Je sais bien que je suis pauvre, mais il n'est pas nécessaire de m'en railler non plus que des secours qu'on a bien voulu me donner. J'aime encore mieux y renoncer et n'avoir rien et sortir de chez vous que d'y demeurer exposé à des discours aussi désobligeants. « Tenez, dit-elle, où va-t-elle chercher que je la raille à cause que je lui dis qu'on lui donne ?»« Eh, pardieu, oui, on vous donne. Et vous prenez comme de raison à bien donner, bien pris. Ce qui est donné n'est pas fait pour rester là, peut-être. Et quand on voudra, je prendrai, voilà tout le mal que je sache, et je prie Dieu qu'il m'arrive. On ne me donne rien, je ne prends rien, et c'est tant pis. » Voyez de quoi elle se fâche. Allons, allons, dînons, cela devrait être fait. Il faut aller à vêpres. Et tout de suite, elle alla se mettre à table. Je me levai pour en faire autant, en me soutenant sur cette aune que Madame Dutour avait remise sur le comptoir. Et je n'en avais pas trop besoin. Il me faudrait un chapitre exprès si je voulais rapporter l'entretien que nous eûmes en mangeant. Je ne disais mot et je boudais. Madame Dutour, comme je crois l'avoir déjà dit, était une bonne femme dans le fond, se faisant souvent au-delà de ce qu'elle était fâchée, c'est-à-dire que de toute la colère qu'elle montrait dans l'occasion, il y en avait bien la moitié dont elle aurait pu se passer, et qui n'était là que pour représenter. C'est qu'elle s'imaginait que plus on se fâchait, plus on faisait figure. Et d'ailleurs, elle s'animait elle-même du bruit de sa voix. Son ton, quand il était brusque, engageait son esprit à l'être aussi. Et c'était de tout cela ensemble que me vint cette enfilade de dureté que j'essuyais de sa part. Et ce que je dis là d'elle n'annonce pas des mouvements d'une mauvaise humeur, bien opiniâtre, ni bien sérieux. Ce sont des bêtises ou des enfances dont il n'y a que de bonnes gens qui soient capables, de bonnes gens de peu d'esprit à la vérité, qui n'ont que de la faiblesse pour tout caractère, ce qui leur donne une bonté habituelle avec de petits défauts, de petits venus qui ne sont que des copies de ce qu'ils ont vu faire aux autres. Et telle était Madame Dufour, que je vous peins par hasard en passant. Ce fut donc par cette bonté habituelle qu'elle fut touchée de mon silence. Peut-être aussi s'en inquiéta-t-elle à cause de la menace que je lui avais faite de sortir de chez elle si elle me chagrinait davantage. Ma pension était bonne à conserver. « Et à qui en avez-vous donc ?» me dit-elle. « Comme vous voilà muette et pensive. Est-ce que vous avez du chagrin ?»« Oui, madame, vous m'avez mortifiée, » lui répondis-je sans la regarder. « Quoi, vous songez encore à cela ?» reprit-elle. « Mon Dieu, Marianne, que vous êtes enfant. Qu'est-ce donc que je vous ai dit ?»« Bon, je m'en souviens plus. Est-ce que vous croyez, quand on est en colère, qu'on va éplucher ses paroles ? Eh pardi, ce n'est pas pour s'épiloguer qu'on vit ensemble. » Eh bien oui, j'ai parlé un petit bras de Monsieur Climal. Est-ce cela qui vous fâche, à cause que c'est lui qui prend soin de vous et qui fait votre dépense ? Est-ce là tout ? Mais gageons, parce que vous n'avez ni père ni mère, que vous avez cru encore que je pensais à cela. Car vous êtes d'un naturel soupçonneux, Marianne. Vous avez toujours l'esprit au guet. Toi, non, me l'a bien dit, et sous prétexte que vous ne connaissez point vos parents, vous allez toujours vous imaginant qu'on a que cela dans la tête. Par hasard, hier, avec votre voisine, nous parlions d'un enfant trouvé qu'on avait pris dans une allée. Bien, vous étiez dans la salle. Vous vous entendîtes. Et n'allez-vous pas croire que c'était vous que nous disions ? Ah, je le vis bien, la mine que vous fîtes en venant. Et voilà que vous recommencez encore aujourd'hui. Eh bien, je prie Dieu que ce soit là mon dernier morceau. Si je n'ai plus pensé à père et mère que s'il n'y avait jamais eu pour personne. Au surplus, les enfants trouvés, les enfants qui ne le sont point, tout cela se rassemble. Et si on mettait là tous ceux qui sont comme vous, sans qu'on le sache, s'il fallait que le commissaire les emportât, où diantre les mettrait-il ? Dans le monde, on est ce qu'on peut et non pas ce qu'on veut. Vous voilà grande et bien faite, et puis Dieu est le père de ceux qui n'en ont point. Charité n'est pas morte. Par exemple, n'est-ce pas d'une providence que ce monsieur de Climal ? Il est vrai qu'il ne va pas droit dans ce qu'il fait pour vous, mais qu'importe. Dieu mène tout à bien, si l'homme n'en vaut rien, l'argent en est bon, et encore meilleur que d'un bon chrétien, qui ne donnerait pas la moitié tant. Demeurez en repos, mon enfant, je ne vous recommande que le ménage. On ne vous dit point d'être avaricieuse. Voilà que ma fête arrive. Quand se viendra la vôtre ? Celle de toi, non. Dépensez alors qu'on se régale à la bonne heure. Chacun en profite, mais lors cela et dans tous les jours de carnaval, où tout le monde se réjouit, gardez-moi votre petit fait. Elle en était là de ces leçons dont elle ne se lassait pas, et dont une partie me scandalisait plus que ses brusqueries quand on frappa à la porte. Nous verrons que c'était dans la suite. C'est ici que mes aventures vont devenir nombreuses et intéressantes. Je n'ai pas encore 2 jours à demeurer chez Madame Dutour, et je vous promets aussi moins de réflexion, si elle vous fâche. Vous m'en direz votre sentiment. Fin de la 2e partie.